Bien, alors moi je m'appelle Carole Puitsch, je vais vous parler d'un programme collectif de recherche que l'on mène sur Perpignan depuis 2007-2008, qui s'intitule Cartographie patrimoniale et évolution morphologique de la ville. Je vais essayer de tenir le temps. Donc ce PCR a été monté parce qu'on a, à force de travailler sur la ville de Perpignan, on a éprouvé le besoin de rassembler la documentation ancienne, mais aussi de un petit peu classer la nôtre parce qu'on commençait à avoir beaucoup d'informations. Donc ce programme collectif a deux objectifs, un objectif scientifique qui est de restituer l'évolution historique de la trame urbaine, mais aussi un objectif patrimonial qui est de faciliter la gestion de ce patrimoine historique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dissocier notre appréhension des vestiges de la préservation du patrimoine et peut-être, ma foi, de l'anticipation de l'aménagement. Nous utilisons tout type de sources historiques, archéologiques, architecturales et géomorphologiques. On ne s'interdit rien. Donc Perpignan est intéressant parce que tout d'abord c'est une ville qui est médiévale, donc on zappe toutes les périodes antiques et proto-historiques et donc on a moins de choses à ça va beaucoup plus vite. C'est une ville qui est en place à partir du 9e siècle, on a une programmation au 10e, mais bon, on a un habitat au 9e siècle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça devient une ville comtale au 11e et la capitale des rois de Majorque à la fin du 13e et 14e siècle, et que le pouvoir public va vraiment s'attacher à faire de ce petit village roussillonné de rien du tout, à faire vraiment une capitale avec une vraie politique d'urbanisation. Donc ça, c'était un point intéressant. Autre point intéressant, c'est une ville frontière entre la France et la couronne catalano-aragonaise. Donc c'est une ville militaire, et qui dit militaire dit plan. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant. Je passe sur l'équipe de recherche qui est pleine de nombreuses personnes intéressantes, notamment des géomorphologues, une collaboration avec l'équipe d'ACOM, on va en reparler, et une collaboration étroite avec la ville de Perpignan, dont Olivier Bruy s'y présente, on en reparlera. On a un partenariat très important avec les services patrimoniaux, la SERA, notamment avec Thierry Audio, et le STAP, Service Territorial du Patrimoine, Jean-Marc Huertas. Donc les sources, évidemment, les sources archéologiques, comme je vous ai dit, c'est assez facile. Enfin, c'est facile. On n'a pas trop de superposition archéologique, donc on a quand même des enregistrements assez souples, assez faciles à faire. Une forme correspond à une fonction, à une datation, donc bon, c'est assez simple. Je m'étends un peu sur l'enregistrement archéologique, on pourra en reparler après si vous le souhaitez. Par contre, on a des données historiques qu'on a traitées un petit peu en profondeur, et il me semble intéressant de s'étendre un peu là-dessus. On a la chance sur Perpignan que la ville de Perpignan ait financé plusieurs études documentaires d'îlots ou de bâtiments qui nous ont permis d'aborder des quartiers de manière diachronique depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle de manière exhaustive. Et ça nous permet de mieux critiquer notre documentation écrite, à la fois les sources écrites, mais à la fois les plans. Ces plans, donc voilà, on en a plusieurs types, notamment les plus importants sont quand même les plans de la ville, le plus ancien date de 1540. Et comme je vous l'ai dit, on a une ville qui est militaire, donc on a une série de plans du XVIIe siècle jusqu'au cadastre napoléonien qui sont assez précis. L'intérêt, c'est que ces plans, on a pu quand même, en étudiant des îlots, faire une critique de cette documentation que l'on prend des fois un petit peu de manière globale, et on s'aperçoit qu'il y a des plans qui sont des copies de plans précédents auxquels on rajoute des projets et qu'ils ne révèlent pas systématiquement une réalité matérielle. Donc en fait, en travaillant sur ces petites monographies, on s'aperçoit que tel plan, eh bien, il faut faire attention, tel secteur, eh bien, il faut peut-être le prendre avec parcimonie. Mais bon, on a quand même des plans qui sont très, très intéressants. Sur ces plans, on a d'ailleurs un atlas de Perpignan, fait par Antoine Deroux, qui a déjà fait une très belle étude de cette documentation. Et bon, après on a enrichi, mais c'est vrai que c'est un bon point de départ. À côté des plans de ville, on a dès le milieu du XVIIIe siècle des plans de bâtiments un peu prestigieux, des couvents, des hôtels, etc. Et aussi, après la Révolution, ces couvents qui étaient des biens nationaux sont revendus, donc on les morcelle, et donc on a à nouveau des séries de plans qui sont intéressants. On a des vues également qui nous donnent cette verticalité que l'on n'a pas dans les plans, et qui sont très intéressantes. À côté de cela, on s'intéresse aussi beaucoup aux plans d'aménagement ponctuel de la ville, mais aussi aux plans d'alignement des rues, qui nous donnent une vision de l'intérieur du bâtiment, ce qu'on n'a pas dans les plans parcellaires. Alors, à côté des sources architecturales, donc des bâtiments, MH enregistrés, des sources écrites et des sources planimétriques, on a mis en place aussi un inventaire patrimonial. Donc cet inventaire est mené essentiellement par Olivier Bourg, qui est ici présent, qui est chargé de mission à la ville de Perpignan. De quoi s'agit-il ? En fait, de par sa mission, Olivier visite les sites qui sont en cours d'aménagement, les chantiers, etc. et rencontre très fréquemment des éléments architecturaux qui vont être rebâtis très rapidement, sur lesquels nous n'avons pas le temps d'intervenir, mais qui sont intéressants à pointer. Donc il y a une espèce de prospection qui se fait, et donc du coup on a trouvé intéressant de faire un inventaire de toutes ces structures-là. Donc cet inventaire concerne les plafonds peints, qui a donné lieu à un article là qui est sous presse, concerne les murs en terre. Alors ces murs, cette architecture de terre crue, on la croyait anecdotique, et maintenant qu'on la recense, on s'aperçoit qu'elle est importante dans les quartiers populaires, et tellement importante que, bon, au mois dernier, on a une inondation qui a causé l'éventration de murs et un effondrement de maisons. Donc c'est vraiment un problème qui est vraiment un problème actuel. Et donc l'inventaire est fait, c'est un inventaire ponctuel, hein, où on pointe, on dit un mur en terre, on donne des informations que l'on a, on n'a pas beaucoup, mais voilà, c'est pointé. Et on a une étudiante qui s'appelle Elodie Escourbiac, qui, sous la direction de Clérin de Chazelle, va faire l'étude de ces murs en terre à partir de septembre prochain, avec un inventaire systématique, un questionnement sur la technique utilisée, Bosch, Pizet, et voir si c'est possible d'avoir des éléments de datation. Un autre point de cet inventaire aussi, ce sera de voir avec le STAP, c'est d'avoir un élément de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ces murs en terre, cette architecture de terre crue dans la ville, quand on la rencontre, est-ce qu'elle doit être préservée, protégée, dans quel ordre les bâtiments de France se situent. Voilà donc pour ces inventaires qui sont quand même intéressants parce qu'ils donnent des éléments morphologiques sur la ville qui nous échapperaient totalement parce qu'on n'a pas cette réactivité. Dans les projets à inventorier, on a nos jardins suspendus, entre guillemets. En fait, on s'est aperçu que dans la ville, on a beaucoup de jardins qui sont pris dans le parcellaire, mais à un premier niveau, alors que tout le reste est au rez-de-chaussée. Et on se dit que dessous, il y a très certainement un conservatoire archéologique, des choses en élévation qui seraient bon d'investir. Donc on va recenser ces choses-là avec une veille archéologique un peu plus insistante que sur le reste. Et autre projet d'inventaire, ce sont les cavités, donc on en a parlé hein, encore une fois. Ces cavités qui sont soit des caves, soit des souterrains, soit des égouts, toutes sortes de choses qui sont quand même révélateurs d'éléments archéologiques anciens. Donc on a plein d'informations comme ça éclatées de différentes sources, qu'est-ce qu'on en fait, c'est bien joli, mais maintenant il faut pouvoir mouliner tout ça. Donc ces monographies que l'on a faites nous permettent d'appréhender les choses un peu différemment, à petite échelle et donc avec plus de finesse. En ce qui concerne les sources écrites, on adopte deux méthodes, une méthode régressive quand il s'agit de partir des plans, et jusqu'à ce que nous... jusqu'au XVIIe siècle, au moment où on a des plans, on a un support planimétrique, on peut faire une méthode régressive. Pour les périodes anciennes, le XIIe siècle, le XIe siècle, on n'a pas d'éléments pour pouvoir se caler planimétriquement dans la ville. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a décidé de partir sur des schémas complètement hors de tout contexte de plan, hors d'éléments de repères, et de multiplier ces petits schémas d'informations qui nous sont données brutes par les textes. Et en fait, on s'aperçoit que quand on multiplie les schémas, donc là, vous avez chaque texte nous donne un type d'information, heureusement, il y a des points cardinaux, ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, en multipliant ces schémas, on arrive à avoir des espèces de déroulés d'informations qui restent schématiques, que l'on ne peut toujours pas caler sur un plan, mais qui nous donnent une organisation un petit peu de ces choses-là, qui est parfois peut-être plus juste qu'on recolle sur un plan du XVIIe siècle. Ensuite, on passe à l'étape régressive, c'est-à-dire qu'on superpose les plans, et on valide aussi par les informations architecturales. Et une fois que tout cela est fait, on arrive à pouvoir faire une restitution chronologique, voilà, qui est peut-être plus fiable, en tout cas plus raisonnable. La 3D. Alors, voilà. Alors, nous, on s'est posé la question de la 3D aussi il y a quelques temps, mais bon, moi je suis historienne, hein, je ne suis pas biomaticienne. Argis ne le faisait pas encore à ce moment-là, donc on a essayé de voir... quel besoin on avait pour la 3D ? Eh bien, en fait, Perpignan, bon, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur sédimentaire, hormis dans certains endroits, notamment le noyau primitif, où on a vraiment une accumulation sédimentaire très importante. Donc là, je vous ai mis une petite coupe. On a une salle voûtée qui est, donc le fameux palais Comtal, qui est sous le sol actuel, dont le niveau de circulation sera 6 mètres sous le sol actuel, des salles médiévales à peu près à 4 mètres sous le sol actuel, et l'église Saint-Jean-le-Vieux, donc l'église primitive, dont le sol devait être à 1 mètre sous le niveau actuel. Donc on a une topographie extrêmement variable, qui est aujourd'hui plane, et on trouvait intéressant d'essayer de reconstituer un petit peu la topographie de ce noyau primitif. Donc on a essayé de se lancer un 3D, c'est mon lieu d'utiliser Argis, on avait passé sur des logiciels d'ingénierie, là c'est Katia, et le but du jeu n'est pas de faire quelque chose qui soit restituable au grand public, n'est pas de faire de la valorisation, ce n'est pas prévu. Ce qu'on souhaitait faire, c'est de faire en 3D, de restituer avec les élévations des bâtiments les niveaux de circulation que l'on a avec une attribution de couleurs selon la chronologie. Juste pour pouvoir donner très simplement une idée de l'évolution topographique de ce secteur-là, en restant de manière très, très sobre cet outil. Il est toujours temps à terme, à posteriori, de texturiser ces choses-là et de donner un peu plus de corps, voire de valoriser ces éléments. Donc, on commence quand même à avoir à pouvoir faire des petites synthèses à l'échelle de la ville. L'objectif final est de pouvoir comprendre l'évolution de toute la trame. Pour l'instant, on fonctionne par monographie. On n'est pas encore à un stade où on peut réfléchir sur l'ensemble de la ville. Le noyau primitif, effectivement, c'est un des secteurs les plus investis. Donc, l'historiographie, puisqu'on a parlé d'historiographie tout à l'heure. Pour l'historiographie, en fait, cette forme-là circulaire matérialisait l'habitat primitif avec sa petite église au centre, écrasée par la cathédrale et le cloître cimetière qui arrive au XIVe siècle, ou par l'hôpital qui est ici, dans son état 20e. Les études que l'on a faites à la fois ici, des sondages ici, des études documentaires, et la mise à relation d'archives et une fouille récente, je me dépêche, du mois dernier, nous permet de revisiter un petit peu cette lecture de cet habitat primitif et de voir non pas une enceinte circulaire, mais une enceinte qui est plutôt quadrangulaire, qui ferait plutôt ceci. Ces formes circulaires-là pourraient correspondre à l'extension maximale du cimetière paroissial primitif, qui est ici, et celle-ci serait plutôt la confluence du fleuve de la Tête qui passait ici au XIIe siècle, et pourquoi pas de l'Achugador, qui est un collecteur qui matérialise en fait un ancien ravin qui venait se jeter dans la Tête. Donc là, on a vraiment. Notre travail nous permet enfin peut-être de revoir une relecture de cette historiographie des origines de la ville. Premier dossier. Deuxième dossier qui est en cours d'étude et sur lequel on peut commencer à réfléchir sérieusement, c'est le CAI. Le CAI, c'est le quartier juif de la ville, le quartier juif médiéval, fondé en 1243 par le roi. Donc on a une date de fondation. Les juifs sont expulsés en 1493, donc on a un quartier qui fonctionne de manière très. Très courte et très, très ciblée dans le temps, et avec un parcellaire orthonormé et constitué de petites parcelles vraiment très caractéristiques qui ont été datées par l'étude de bâti du XIIIe siècle, du moins l'une d'entre elles. Et donc c'était très intéressant de voir ce quartier juif, d'analyser au XIIIe, XIVe siècle un petit peu comment est-ce qu'il fonctionnait. L'historiographie nous dit que ce quartier juif, eh bien, c'est un quartier fortifié, c'est un quartier qui est fermé, c'est un quartier autarcique. On a l'impression de quelque chose de très replié sur lui-même. Et quand on voit la planimétrie, c'est vraiment tout à fait. Excusez-moi. C'est vraiment l'inverse. On a plutôt un quartier ouvert. Donc notre problématique ici, c'est de réfléchir sur cette dichotomie entre les sources écrites et l'appréhension planimétrique de ce quartier. Et donc, bon, là, on y travaille. Et la ville finance une étude vraiment complémentaire l'année prochaine. Et je pense qu'on pourra avoir des éléments de réponse. Dernier point abordé par Jean-Michel Carozza et Philippe Ballette, qui sont des géomorphologues. Donc leur intérêt était de travailler sur la topographie de la ville. On a des éléments, mais pas encore pour faire des éléments de synthèse. Par contre, la relation ville-fleuve nous apparaît très importante. Et donc la Tête est ici, le fleuve qui porte de la ville. Il était ici au XIIe siècle. La Tête, c'est pas la Garonne, hein, c'est un oued méditerranéen, donc on la traverse à pied toute l'année. Mais elle a des crues torrentielles qui ont détruit à plusieurs reprises la ville, qui est construite sur une terrasse quaternaire, donc quand même il faut voir que c'est quand même très violent. Et donc d'essayer de comprendre comment fonctionne le fleuve et quelle est la dialectique avec la ville, notamment avec la construction de digues, etc., c'est un des points forts du dossier aussi. Voilà, j'arrête en vous disant que bon, on a une approche un petit peu de ce programme qui est une approche un peu intuitive, on utilise divers outils, on bricole un peu, hein, parce que nous aussi on n'est pas des géomaticiens hors pair. Et voilà, j'attends vos observations pour pouvoir réorienter notre travail. Voilà.
Je voudrais dire juste une chose qui, au-delà du fait que à quand le nouvel atlas de Perpignan, c'est l'intégration des données iconocartographiques qui me paraît particulièrement heureuse, non seulement en termes de plan, mais aussi en termes de vue. Parce qu'elles renvoient non seulement elles peuvent donner des informations à récupérer sur tel monument du bâti, mais aussi sur la perception de la ville, sur les représentations de la ville. Et ça, je crois que c'est vraiment. Il y a tout un travail, il y a un fond énorme à gérer et à revoir pour élaborer tant les paradigmes iconocartographiques que les filiations entre les différents plans. Et en matière de perçu de la ville, je crois que c'est absolument essentiel que d'investir ces données iconocartographiques. Et je salue que vous le fassiez. Parce que c'est véritablement un travail gigantesque, avec des fonds qui sont très dispersés,
etc. Ah oui, c'est
et c'est vrai qu'une ville comme Perpignan, c'est archétypale quand on sait l'importance militaire que ça a eu.
C'est une chance aussi, ouais. Voilà.
C'est une chance et à la fois un embarras, tellement que ça peut... Mais si, parce qu'on peut être débordé par l'importance des plans.
Oui, on a dû choisir.
On peut être débordé. Pour Bayonne, quand je connais le cas pour Bayonne, par exemple, qui est un peu finalement...
Même le schéma.
Voilà, c'est le même schéma, et on peut être débordé par les fonds cartographiques.
C'est vrai que la ville est plate, et là on voit sur les vues qu'elle est complètement...
Absolument. Ça, il y a vraiment une entrée, et là aussi, a inventé une méthode.
Oui, tout à fait.
Absolument. C'est vraiment extrêmement important.